With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast actu de 20 minutes. À l'occasion de la nouvelle phase du déconfinement, on chausse nos baskets, on va prendre l'air. Parce que, en plus de la réouverture des terrasses, des magasins non essentiels, les activités sportives de plein air sont de nouveau autorisées, jusqu'à 10 personnes sans contact. En attendant ou pas le retour d'une météo clémente, on échange dans cet épisode avec Clément Lomeau à propos des randonnées en Île-de-France, accessibles en transport en commun avec son simple pass Navigo. Clément Lomeau, c'est le cofondateur du site et du moteur de recherche de randonnée HelloWays, du magazine de nature et de micro-aventure En Nature Simone, et il vient de publier avec Marine Loisy Randonnée autour de Paris aux éditions Gallimard. Première question à Clément Lomeau, l'Île-de-France en termes de rando, ça vaut quoi ?
Eh bien écoute, l'Île-de-France en termes de randonnée, c'est très diversifié et quand j'ai commencé mon projet à la base, en fait on voyait plein de petites taches vertes sur la carte autour de Paris et on se disait mais comment on y va ? Et puis d'autres questions, c'était qu'est-ce qu'on peut voir dans ces coins-là, quoi. Et quand j'ai commencé un peu à creuser tout ça, je me suis rendu compte de la diversité des territoires qu'il peut y avoir. On peut avoir des falaises de craie qui sont plutôt dans les boucles de Seine au nord-ouest de Paris, près du Vexin. On va avoir des forêts avec des mers de sable au milieu de la forêt, c'est complètement incroyable, plutôt au sud de Paris. On va avoir des forêts, que ce soit vers Fontainebleau ou Rambouillet, avec des grands caveaux rocheux qui en font d'ailleurs des grands sites de grimpe. On va avoir les boucles de Marne qui sont aussi dans un autre style, avec plutôt une région viticole, avec les vignes de Champagne, qui sont pareil, un paysage à lui-même assez incroyable. Alors, on va avoir les vallées de Chevreuse, où là, ça va être plutôt des vieux châteaux, le château de la Madeleine, qui date du XIIe siècle, qui domine toute une vallée, avec des petites forêts autour. Et puis, on va retrouver les célèbres champs, les champs vallonnés d'Île-de-France, qu'on peut retrouver dans le Vexin, où là, on a des paysages assez incroyables, des très belles photos à prendre en se baladant dans les champs, vallonnés et bombés, un peu en perte de vue. J'aime particulièrement l'été, quand on va avoir les champs de blé bien mûrs, jaunes, qui font comme si on avait une espèce de manteau doré en face à soi et qui s'étend quasiment à l'infini avec ces petites, ces espèces de collines. Là, je trouve ça vraiment magnifique. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut parfois retrouver aussi des choses complètement improbables. Genre, il y a des cascades en Île-de-France et on peut les trouver dans la vallée de Chevreuse. Il y a des rivières sur lesquelles on peut faire du canoë avec des rapides, comme en Ardèche. Bref, on peut faire plein de choses qu'on n'imagine pas du tout, en fait, à quelques encablures de Paris.
En Île-de-France, est-ce qu'il peut y avoir de la randonnée pour ceux qui n'ont pas fait de sport et qui ne sont pas vraiment sortis depuis un an et demi ? Ou est-ce qu'on est comme toi, qui a à peu près 30 ans, j'imagine que tu es plutôt athlétique, ceux qui rampent un peu, un peu comme moi, qui suis un peu mou du genou, est-ce qu'il y a de la rando pour tous les niveaux ?
Il y en a pour tous les goûts. En Île-de-France, t'en as vraiment pour ceux qui rampent, on peut dire ça comme ça, t'as des petites balades, des petites balades de 2 heures, 1 heure, même 1 heure, 2 heures. On va pouvoir trouver plutôt, même tout près de Paris, vers Vincennes, vers Meudon, vers le parc de Sceaux, par exemple, le domaine de Sceaux qui est aussi très joli, vers le domaine de Saint-Cloud. Là, c'est des petites randonnées qu'on peut faire facilement avec ses enfants, même des jeunes enfants. Il y a même des randonnées qu'on a pu répertorier, qu'on peut faire en poussette, c'est-à-dire qu'ils sont facilement accessibles en poussette, ce n'est pas des chemins trop compliqués. Enfin, je veux dire, pas carrossables, on peut dire ça comme ça. Et puis, on a même des randonnées en Île-de-France qui sont accessibles au PMR. Donc, toutes les personnes à mobilité réduite, que ce soit les personnes en fauteuil roulant ou les personnes âgées, vraiment tout type de niveau. Mais on va aussi, et pour les plus sportifs, avoir des itinéraires qui, pour le coup, se font en itinérance, c'est-à-dire sur 2 ou 3 jours, 30, 40, 50, on a un itinéraire à 60 km, qui part d'une gare à une autre et qui permettent, par exemple, de traverser le massif de la forêt de Fontainebleau d'est en ouest, de traverser le Vexin du nord au sud, et forcément d'avoir un peu plus aussi de dénivelé, parce qu'en forêt de Fontainebleau, on a des itinéraires qui peuvent aller jusqu'à 1200, 1300 mètres de dénivelé positif et négatif, ce qui commence à attaquer un peu. Oui.
Fontainebleau, alors, le parcours le plus warrior des warriors, ou pas ?
Le warrior des warriors, il y en a deux, notamment en forêt de Fontainebleau, qui sont particulièrement complexes Il y en a un qui s'appelle la Transblosarne, qui traverse, bah, comme son nom l'indique, hein, la forêt d'est en ouest, où là, oui, on est autour de 1200, entre 1200 et 1300. C'est pas facile de calculer, parce qu'il y a beaucoup de mini-boss, en fait, qu'on monte, qu'on descend, mais c'est pas évident de calculer. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très technique. Il y a des parties qui sont très techniques, où on met les mains, quoi, on grimpe, c'est souvent sur la rando. Et puis, il y en a une autre qui est plutôt une traversée du Vexin aussi, où là, on est plus dans de la longueur. Ça va faire 70 kilomètres qu'on peut faire en 2 ou 3 jours. Donc là, c'est plus de l'endurance, on va dire, plus que de la difficulté pure. Mais oui, là, ça commence à attaquer un peu les jambes. Ouais.
La rando, c'est sympa. Marcher, c'est sympa. Mais on peut faire aussi plein d'autres trucs comme manger.
Exactement. Et ça fait partie même, c'est partie intégrante de la randonnée, de manger. S'arrêter dans les petits villages d'Île-de-France. Encore une fois, on est quand même gâté en Île-de-France. On a plein de superbes villages. Je dirais qu'il y a quand même la vallée de Chevreuse qui est superbe, où là, on va avoir, par exemple, le dernier artisan siropier d'Île-de-France qui est dans le village de Chevreuse. On va récolter ses fleurs, ses plantes, fait lui-même ses sirops sur place. Par exemple, c'est lui qui distribue pas mal de grands restaurants à Paris. Et il fait ça sur place. Il vous propose même des ateliers pour en faire avec lui. On a de la ferme en vente directe aussi, accessible facilement à pied. Je pense notamment pour des produits laitiers, une queue très sympa, c'est la ferme de Coubertin qui est, encore une fois, Chevreuse. Si on est plutôt champagne, il y a les Boucles de Marne. On passe à côté de plusieurs maisons qui proposent de la dégustation et ramener sa petite bouteille de champagne à la maison. Si on est plutôt produit bio de la ferme, on peut aller dans le Vexin. Je pense notamment à la bergerie de Villarceau qui est très sympa. C'est un endroit où on peut dormir aussi. Et ils ont un magasin où ils vendent directement les produits de la ferme. Donc là, vous pouvez acheter du pain, vous pouvez acheter des produits, enfin de la viande, vous pouvez acheter des produits laitiers. Et puis, bah, après, il y a tous les petits villages d'Île-de-France. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Milly-la-Forêt, qui est plus à l'ouest de la forêt de Fontainebleau, où là, vous avez une grande halle qui est magnifique, une belle place de village. Vous avez plein de petits restaurants sympas où se poser, que ce soit des restaurants plus sophistiqués ou la simple petite crêperie ou, voilà, qui fait plaisir avec ses petites galettes quand on arrive de marché. Franchement, on est très gâté en Île-de-France vis-à-vis de tous les à côté de la randonnée.
Je vais te poser maintenant des questions sur les trucs, astuces et comportements. Tout d'abord, où est-ce qu'on fait pipi ?
C'est une bonne question. Où est-ce qu'on fait pipi ? Eh bien, écoute, en Île-de-France, théoriquement, tu peux faire le pipi dans la nature. Hein. Si c'est pas un endroit où tout le monde fait pipi, où ça risque de détruire l'espace naturel, en gros, on peut pisser un peu partout. Hein. Après, la meilleure façon, c'est tout simplement d'aller frapper à la porte des restaurants et des bars, j'ai envie de te dire, et demander si c'est possible d'aller utiliser leurs toilettes. C'est quand même ce qu'il y a toujours de mieux.
Je suis en Île-de-France, donc je suis pas dans le Sahara. Est-ce que je prends de l'eau ou pas ?
Alors, il faut toujours prendre de l'eau avec soi, toujours. Même si c'est en Île-de-France et qu'on part sur une petite rando de 1h30, 2h, généralement, on conseille 1,5 litre par personne sur une randonnée, on va dire, qui se fait sur un après-midi. Si c'est vraiment sur la journée et habituellement, vous avez l'habitude de boire beaucoup, portez plus sur 2 litres, 2,5 litres et essayez, si possible, de boire régulièrement et de la remplir le long de votre trajet. Vous trouverez toujours un bar, un resto, n'importe quoi, demander à remplir. Ils le font bien volontiers. C'est que de l'eau. Et surtout, dans l'hydratation, ce qu'on dit pas assez souvent, c'est qu'il faut penser à boire peu, mais régulièrement.
Est-ce que les baskets un peu pourries qui ont été au placard depuis un an et demi, est-ce que je les mets pour faire de la rando ou est-ce que vraiment qu'il faut que je commence à m'équiper et maintenant j'investis ?
Je dirais simplement que ça dépend du type de rando que tu veux faire. C'est-à-dire que si c'est pour une randonnée d'une ou deux heures, très sincèrement, la petite paire de baskets qui n'a pas bougé depuis un an, elle fera l'affaire. Et si tu pars sur une randonnée de 50 km, où tu vas avoir tes chaussures pendant 2 jours, tu vas marcher pendant 2 ou 3 jours non-stop, là, il vaut mieux que ce soit des chaussures un peu vieilles, mais que tu as déjà portées quand même régulièrement ces derniers jours, pour qu'elles se soient refaites à ton pied, sinon tu vas avoir beaucoup d'ampoules. Soit des chaussures, même des chaussures neuves, ça ne suffira pas, parce que les chaussures neuves, il faut quand même un peu les faire à son pied. Et si tu n'as pas repris depuis longtemps, pars d'abord faire une petite balade de 1 heure ou 2 avec tes chaussures, et après, tu pourras faire plus gros.
Je fais ma rando et j'arrive là où j'ai envie de déjeuner. Et là, arrive un groupe de copains qui ont l'enceinte Bluetooth. Et on entend bande organisée. Alors là, pendant une heure, c'est youhou, c'est déconfinement. Est-ce que l'enceinte Bluetooth, c'est interdit ou
Bien sûr, c'est pas interdit, hein, malheureusement, j'ai envie de te dire. Chacun a un rapport différent avec la nature. Certains la pratiquent simplement pour voir des beaux paysages et puis partager un moment avec des gens. Et donc, ça peut se comprendre qu'ils aient envie de mettre de la musique. Maintenant, je pense que quand on fait de la rando, il faut aussi penser qu'on n'est pas seul, respecter aussi le calme que peuvent rechercher les autres. Donc moi, si tu me demandes ma religion à moi, je te dirais que non, je suis absolument anti-enceinte Bluetooth. C'est dès que j'en vois, ça m'énerve et j'ai tendance à leur dire « Est-ce que vous pouvez baisser la musique ?» Maintenant, j'accepte aussi ce genre de comportement, parce qu'on n'est pas seul. Moi, la nature ne m'appartient pas, elle ne leur appartient pas non plus. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, tant mieux, parce que sinon, ce serait un peu triste, quoi.
Et dernier comportement que j'aurais complètement oublié, mais qu'il faut respecter.
Il y a pas mal de choses, mais si je devais en retenir un, c'est d'essayer de rester sur les sentiers. Il y a un peu plus de 8000 km de sentiers balisés en Ile-de-France. C'est largement assez pour se faire plaisir, mais ça ne sert à rien d'aller couper à travers, se la jouer Bear Grylls dans la forêt avec sa machette. La seule chose que vous allez faire, c'est de détruire des écosystèmes. Vous allez potentiellement créer des faux sentiers, c'est-à-dire des sentiers, on croit que c'est des vrais sentiers, mais ce n'en est pas, et donc du coup, les gens vont s'engouffrer dedans et potentiellement se perdre. Donc, il faut rester sur les sentiers et pas de feu en forêt. C'est-à-dire, vous partez, même si vous pensez maîtriser la chose, vous dites « non, mais moi... » jamais je fais un incendie. 100% des gens qui ont créé un incendie avec du feu pensaient pouvoir maîtriser leur feu et ils l'ont pas fait.
Il existe des cendriers portables, donc on ne jette pas évidemment son mégot déjà dans la nature et en plus son mégot qui est encore allumé avec une braise qui peut faire des départs d'incendie.
Bien sûr, en termes de consignes, je pense qu'il y en a une qui est très importante, mais elle me paraît tellement évidente que je ne la dis jamais, mais c'est rapporter tous vos déchets avec vous, bien entendu. Enfin, on ne laisse jamais rien dans la nature. Même une peau de banane, ça met des années et des années avant de se désagréger. Donc, mettez tout dans un sac plastique que vous avez avec vous, dans votre sac. Ça ne va pas pourrir vos affaires. Hein. Par contre, ce que vous pourrez laisser dehors, ça va pourrir la nature et ça va pourrir les visites des autres. Donc, gardez bien tout avec vous et jetez ça dans une poubelle, classiquement, on va dire.
Merci à Clément Lomo pour cet échange. Je vous souhaite de belles balades et de randonnées gratuites avec vos vieilles baskets. Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est le podcast Actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi alerté des nouveaux épisodes. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.